Salut tout le monde, bienvenue à cette édition du 1er octobre du podcast de Hockey sur demande. Steph, on est rendu au mois d'octobre.
Hey, ça va tout de suite.
Le hockey arrive à grands pas, quoique les matchs pré-saison sont déjà commencés, mais la vraie saison commence très bientôt, donc ça s'en vient. Mais en attendant, cette semaine, on va faire les prédictions de la division centrale, donc on se dirige du côté de l'Ouest. Mais avant tout, Stéphane, comment ça va?
Ça va bien, fatigué, grosse semaine, mais ça va bien, faut pas lâcher, le hockey s'en vient, le football est en branle, donc de mon côté, c'est du sport en masse, mais...
Grosse victoire de tes Cowboys tantôt, je checkais le match contre les Patriots, puis ouf, on est loin des Patriots dans le temps de Tom Brady.
une belle dégelée, mais sinon, on a écouté quand même pas mal de hockey au niveau des pré-saisons, j'aime ça voir ce que les jeunes peuvent nous offrir, ça veut rien dire, mais au moins, on sait un petit peu où qu'on s'en va avec la jeunesse quand même. Et j'ai hâte de voir ce qui s'en vient, mais ça va être un bon podcast là encore.
Salutations à Explore qui est déjà dans le chat, tout comme Savanti aussi.
Bien sûr,
donc, re-bienvenue messieurs. Steph, es-tu prêt à commencer pour notre fameux classement de la division centrale? J'ai hâte... ben, avant d'y aller, as-tu de la misère à classer tes équipes? Ou...
Pas tant non plus.
Non? J'étais surpris moi aussi, il semble que je m'attendais à avoir plus de casse-tête que ça, mais finalement, pas tant que ça.
Ben, je te dirais que, tu sais, en tout cas, dans les deux, trois derniers, c'est quand même assez simple. Les trois premières ou les quatre premières, de mon côté, elles peuvent être interchangées un petit peu. Mais je pense qu'avec les effectifs nouveaux dans chacune des équipes de cette division-là, ça change. Et la division entre les meilleurs et les moins bons va vraiment être grande, je pense, dans cette division-là, plus que dans les autres, en tout cas.
Salutations à Joël, qui est également dans le chat pour le podcast. Et Savanti qui mentionne que ces Rams ont gagné et... Il l'a vu aussi. Est-ce qu'on a vu la situation la nouvelle formation de la WHL qui remplace le Ice de Winnipeg, là, qui est encore une autre démêlée avec le coach là, qui a été nommé là-bas? Je n'ai pas lu précisément sur le dossier, mais ça fait quelques fois que la WHL là, prenne des décisions assez nébuleuses. Je pense que c'est les Rebels de Red Deer qui ont nommé tout récemment leur capitaine. Puis leur capitaine a déjà été impliqué dans un scandale de racisme ou quelque chose du genre. Fait que puis ça fait quelques fois là, qu'il y a des scandales comme ça dans la DOB là, depuis le début de l'été. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. On chie beaucoup sur la LHGMQ avec les scandales, entre autres avec ce qui s'est passé avec l'éthique de Victoriaville et tout ça. Mais sachez que ce n'est pas seulement dans la LHGMQ que ça arrive, il y en a partout. Puis la WHL vient de nous faire une belle démonstration de tout ça. Ouais. On va parler de quelques nouvelles justement après qu'on ait fait notre classement, mais on va y aller tout de suite avec le classement. Et si vous voulez faire le vote dans le chat également, allez-y, on va vous lire tout au long du podcast. Et allons-y avec le numéro 8. Et je vais te poser la question, est-ce que tu places les Blackhawks encore au 8e rang ou si Connor Bedard va tout transformer dans cette équipe-là?
Moi, je les mets encore 8e. Je les mets encore 8e parce que je pense que les équipes avant sont améliorées. Oui, Connor Bedard, c'est bien beau. Première saison, ça va faire comme l'effet Crosby. Moi, je pense que non. Il n'y a pas assez de bons joueurs autour de lui pour l'aider. C'est pas Ntanasio qui va faire la différence dans cette équipe-là, malheureusement. Mais quand même, je pense que ce ne sera pas une aussi grande perte du côté des Blackhawks. Parce que je pense que cette division-là est un petit peu plus forte qu'on le pense. Évidemment, Taylor Hall qui est rendu là, Nick Foligno avec Corey Perry au niveau des vétérans. Ryan Donato a été cherché aussi en termes d'ailier gauche. Donc, je pense juste qu'on a vraiment pas un bon duo de goalers. On n'a peut-être pas non plus le meilleur duo, les meilleurs duos de défenseurs, mais l'attaque, on va probablement être très, très bon. Mais le problème, c'est que Connor Bedard ne pourra pas tout faire. Dans les pré-saisons, c'est bon. Mais dans la saison régulière, ça va être différent, je pense. Je vais être quand même excité de voir cette équipe-là cette année. Puis pour moi, même s'ils finissent dernier, ça ne change absolument rien. S'ils réussissent à écartir les œufs à tout le monde et qu'ils finissent pas dernier, tant mieux dans cette division-là. Mais je pense qu'on n'a vraiment pas de depth offensif. Là. On regarde souvent, moi et toi, les fameux daily face-off. Là. C'est pas très, très grand-chose dans cette équipe-là, malheureusement. Mais j'ai l'impression qu'ils vont quand même avoir un top 6 qui va faire des points, mais c'est vraiment défensivement puis devant les buts qui va être le problème de ce côté-là.
Salutations également à Mick là, qui vient d'arriver dans le chat. Je suis d'accord avec toi. Du côté des Hawks, c'est bien le fun, là, Connor Bedard, Taylor Hall, on a vu des clips passer sur Twitter là, que les deux se retrouvaient, se repéraient facilement lors des entraînements et tout ça dans les matchs intra-équipe. Là. Mais ça va être pas mal la seule chose qui va être le fun d'avoir allé du côté des Hawks cette année, ça va être ce duo-là, parce que tu en as mentionné, tu regardes l'attaque présentement, il y a Lucas Reichel qui va être intéressant également à surveiller, ça fait quand même depuis peut-être un an et demi là, qu'on se demande pourquoi on ne le montre pas tout de suite du côté des Hawks, on attendait, et là finalement, devrait jouer à Chicago cette année. Mais tu sais, sinon, Kourachev, correct, mais c'est pas la mer à boire. Même chose pour Atanasiou. Puis le bottom six, c'est juste... pour vrai, ça fait pitié. C'est pas,
on va passer la masse à la quatrième ligne, en tout cas, ça, je peux te dire.
Ouais, ça, oui, mais la production offensive ne sera pas tellement fameuse. Et là, après ça, tu regardes la défensive, c'est pas tant mieux. Tu sais, oui, tu as Seth Jones, tu as Kevin Korchinski, là, qui est un des top prospects, là, qui devrait commencer peut-être l'année à Chicago. Mais tu sais, Jarrett Tinordy, c'est la troisième paire. Wyatt Kayser, c'est la première avec Seth Jones. Puis tu as mentionné du autre gardien de but. Peter Mrazek, on ne sait jamais quel Mrazek qui va se présenter, qui va être meilleur comme du pire. Mm-hmm. Puis il est secondé par Arvid Söderblom. Donc, tu sais, du côté des Blackhawks, là, ça va être encore une année très difficile. Ça va être plus le fun d'aller voir aller, évidemment, en raison de Connor Bedard. Et là, je vois que dans le chat, il y en a qui demandent là, un peu nos guests là, sur le nombre de points que Bedard va faire cette année. Écoute, je pense qu'il va y avoir tellement de temps de glace là-bas et d'avantage numérique. Moi, je pense qu'un 70-75 points, c'est très, très possible là, pour Bedard. Là. À sa première saison, peut-être 35 buts, 35 passes ou quelque chose du genre. Je sais que c'est un joueur qui tire pas mal, donc peut-être ramasser peut-être un 40-35 plus tôt. Là. Mais moi, je pense qu'un 70-75 points pour son année recrue, c'est très, très, très envisageable. Pourquoi je ne vais pas plus haut que ça? Ben, c'est parce qu'il n'est pas très, très bien entouré. Donc, il va falloir parfois qu'il fasse tout par lui-même, le rendu là. Puis, à un moment donné, du côté des autres équipes, on va se passer le mot aussi. Puis, on sait que c'est pas mal lui et Hall qui vont être à surveiller. Puis, le reste, ça va être moins... moins grave là, à laisser aller. Donc, je pense qu'on va mettre vraiment une couverture serrée sur ces deux-là. Donc, c'est pour ça que je joue avec un 70 points. Assez conservateur, je ne serais pas surpris s'il en fait plus, mais je vais aller avec un 70, là, bien senti, vu qu'il n'est pas tellement bien entouré du côté des Hawks.
Bon, moi, je vois qu'un point par match, je pense que peu importe si c'est des blessures ou pas, ça va être un point par match du côté de Connor Bedard. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, beaucoup d'avantages numériques, il va avoir beaucoup de responsabilité au niveau offensif. Je pense qu'il va avoir quand même un apport offensif du niveau de son trio aussi, même si on n'a pas les meilleurs joueurs au monde. Tyler Johnson a beaucoup ralenti depuis les dernières années, qui est peut-être à Tampa Bay, évidemment, il y a 5-6 ans. Mais Taylor Hall peut quand même apporter un peu de vitesse, un peu de grosseur, un peu de ténacité dans cette ligne-là. Mais on n'a pas personne pour protéger Connor Bedard. Donc, moi, je pense que s'il n'y a pas de blessure, ça peut bien aller. Mais souvenez-vous, Connor McDavid, première saison, s'est blessé pour quoi? 35 matchs. Il finit avec 50 points, je pense, en 50 matchs. C'est pas inévitable non plus du côté des Blackhawks. On ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Et du côté des Hawks, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec Connor Bedard au niveau des mises en jeu, au niveau des avantages numériques. Évidemment, il va jouer à profession. Est-ce qu'on va être capable de le protéger? Ça, c'est l'autre question.
Donc, on s'entend pour le numéro 8. Maintenant, allons-y avec le numéro 7. Tu as placé quelle équipe?
Moi, j'ai été avec les Coyotes. J'ai quand même vraiment beaucoup aimé l'été des Coyotes. Je pense que cette équipe-là s'en va vraiment dans la bonne direction, mais on part tellement de loin du côté des Coyotes. Et pour la première fois, je pense que c'est pas la risée. Donc, un excellent job du côté de l'administration. Bill Armstrong fait super bien avec les Coyotes. Je pense qu'on a un bon duo avec l'entraîneur. Donc, de ce côté-là, je suis quand même assez satisfaisant cet été. On va avoir quand même un bon top 6. On voit ce que Logan Cooley fait présentement quand même dans les pré-saisons. On en dira toujours c'est les pré-saisons. Mais je pense que ça s'en vient quand même bien. Kelton Keller, qui fait toujours bien, va enfin avoir un peu d'apport offensif dans un top 6 là-dedans. Et je pense qu'on a ajouté quand même des joueurs qui vont venir aider les Coyotes. C'est Jason Zucker, Alex Kerfoot, Nick Boustad, Matt Dumba, Sean Dursey, Troy Stetchers, Travis Dermott. Donc, c'est quand même 4 défenseurs qu'on rajoute qui sont quand même d'expérience. Je ne vous dis pas que c'est les meilleurs défenseurs sur la planète, mais ça vient quand même solidifier ton top 6 avec ce côté-là. Et là, J.J. Mosser ne sera pas tout seul. Et on sait que ce joueur-là risque d'être probablement le meilleur défenseur de cette équipe-là pour les prochaines années. On va enfin avoir du support avec un Matthew Dumba qui peut... des fois être très malhabile et des fois être très bon. Reste à voir quel Matt Dumba vont avoir à chaque soir. Mais Sean Dursey, c'est une valeur sûre. Troy Stetcher comme une sixième paire aussi. Et j'ai hâte de voir aussi. C'est sûr que devant le filet, Vechmelka est là encore cette année. Connor Ingram est là comme remplaçant. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On pourrait avoir des surprises du côté des Coyotes. Et moi, je pense que ça va être serré avec ma sixième et ma cinquième place du côté de cette division-là. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment qu'on va fonctionner dans cette équipe-là. J'ai vraiment aimé leur été. Là.
Mon septième rang, j'ai mis les Blues de Saint-Louis. Pas par raison particulière. Je pense que... moi, les Coyotes, je les ai mis sixième en passant. Donc, je les ai juste mis devant. Puis, je pense que quand je regardais l'alignement, je me suis peut-être un peu emballé avec les jeunes qui s'en viennent, les Logan Cooley, les Dylan Gunter, entre autres, là, qui vont sûrement là, commencer l'année en Arizona. Évidemment, on ajoute à ça les Clayton Keller, les Nick Schmaltz, là, qui on n'en parle pas beaucoup, mais il fait très bien aussi. Mathias Macelli, qu'on n'en parle pas beaucoup aussi, puis qui fait très bien. Puis, comme tu as mentionné, j'aime beaucoup aussi ce qu'ils ont fait cet été avec les Chandersy et les Mathieu Dumba, entre autres. Devant le filet, Vaimalka, qui n'est pas un mauvais gardien aussi. C'est peut-être Connor Ingram comme deuxième que je suis moins sûr. Mais je ne sais pas. Quand je comparais ces deux alignements-là, comme j'ai dit, je me suis peut-être un peu trop emballé avec les jeunes. Mais je pense que du côté des Coyotes, ils sont dus pour faire un step. Là, ils ont été assez longtemps dans la cave. Là, évidemment, ce n'est pas un énorme step. Mais en même temps, plus que les années vont avancer, plus que les jeunes vont arriver. Là, cette année, c'est Cooley. L'année prochaine, ça va être un autre. Et ainsi de suite. À un moment donné, on va avoir nos jeunes qui vont monter de plus en plus pour finalement là, progresser à ce niveau-là. Du côté des Blues, ils n'ont pas un mauvais alignement. Mais je ne sais pas, il y a plein de noms là-dessus qui me laissent indifférent. T'sais, Brandon Saad, bof, Kasperi Kapanen, ça ne m'énerve pas plus que ça. Sinon, Jakub Brana, ben oui, il y a du talent, mais on ne sait jamais là, qu'est-ce que ça va donner dans son cas. Par défensive, ben, c'est les vieux Nick Leddy, les Torrey Krug, les Justin Falk. T'sais, je ne sais pas, on dirait que cet alignement-là me laisse un peu mais quand je regarde ça. Puis Jordan Binnington, ben, je ne suis pas un grand fan non plus. Donc, puis tu sais, du côté des Blues, sans dire qu'on entame une phase un peu de transition, mais je pense qu'on s'attend à des mauvaises années là, qui s'en viennent du côté de Saint-Louis pour mieux rebondir par la suite. Puis je pense que ça va commencer cette année avec une saison un peu plus difficile à ce niveau-là.
Tu vois, moi, je les avais en 6, les Blues. Donc, de mon côté, c'est la 6e position, les Blues. Pour le même principe que toi, je pense que c'est une équipe qui est dans son déclin. On a perdu quand même beaucoup de bons éléments dans les dernières années. On a évidemment un bon sniper avec Kyrou. Reste à voir si ça va fonctionner. Brady Shen sur une deuxième paire. Moi, je pense que c'est là qu'on tombe à avoir moins. Et défensivement, on est vieux. Torrey Crew ne fait plus ce qu'il faisait avant avec les Bruins et non depuis longtemps. Justin Falk, même chose. Pareko a ralenti. Nick Leddy est quand même vieux, comme tu disais. Et je pense qu'on n'a pas de depth au niveau de du goaler. Si Jordan Binnington ne sort pas une grosse saison, ce ne sera pas Joel Hofer qui va faire la job de ce côté-là. Et moi, je pense que c'est ce qui coule un petit peu les Blues cette année. Malgré la grosseur, malgré l'expérience, malgré tout ce qui se fait du côté des Blues depuis des années, on était cherché seulement Kevin Hayes et Oscar Sundqvist cette année. Il reste à voir ce qu'on va faire. Est-ce que Doug Armstrong va aller chercher des joueurs pour peut-être faire un push dans les séries? Faut pas oublier qu'on a perdu Tarasenko à New York l'année passée, O'Reilly à Toronto aussi l'année passée. Donc, on recommence un petit peu la roue du côté des Blues, mais toujours en étant quand même une équipe qui est assez bien balancée. Il reste à voir si tout le monde va pousser dans la même direction.
Dans le chat, il y a Samantha qui s'est prononcé là pour. Ben, en fait, il a mentionné tout son classement, mais on va les dire un par un en même temps qu'on va faire les notes. Donc, lui, 8e, il avait mis Chicago, 7e, il avait mis Arizona. Et lui, 6e, a mis les Jets quand même. Ça, c'est surprenant. Parce que du côté de Winnipeg, ils ont quand même une très bonne formation. Mais il a expliqué que la raison pour laquelle qu'il met les Jets aussi bas, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont à bout de l'équipe là-bas, donc qui envisagent le manque d'intérêt des joueurs. C'est vrai que les joueurs quittent de plus en plus. On a vu Blake Wheeler qui a quitté, Pierre-Luc Dubois aussi. Là, lequel qui sera le prochain mécontent? On parlait de Connor Hellebuyck aussi, qui ne semblait pas vouloir renouveler son entente avec les Jets à la fin de la prochaine saison. Donc, à quel point que ça va donner une distraction, c'est un bon point aussi. Reste à voir maintenant comment l'équipe va gérer tout ça là, du côté de Winnipeg. Donc, on serait rendu au 5e rang.
Ouais.
Moi, j'ai mis les Prédateurs de Nashville. Je pense que du côté des Preds, c'est un peu bizarre les Preds qu'on fait. Au début, je pensais que, sans dire qu'on tombait dans une reconstruction, je pensais qu'on allait faire plus de place aux jeunes. Et là, on va chercher Guriana, on va chercher O'Reilly, entre autres. Luke Shen en défensive. Tu sais, je sais pas, on dirait qu'on amorçait une transition pour les jeunes, mais finalement, on est... Oui, il y a quelques jeunes qui sont là aussi. On parle de Tomasino, Evangelista qui sont là aussi. Mais sinon, je regarde cet alignement-là. Écoute, on a Yussi Saros qui est devant le filet, donc on ne peut jamais miser contre un Yussi Saros qui est un excellent gardien. La défensive du côté des Preds, ça a toujours été une force depuis des années. Puis encore une fois, on a un top 6 assez intéressant avec Yussi McDonough, Barry, Fabro et Carrier et aussi Luke Shen dans le lot. Mais je pense qu'il va manquer un peu de punch à l'attaque, mais que la défensive va les sauver un peu pour passer en avant des Blues puis des Coyotes. Mais ça ne sera pas assez pour accéder dans le top 3 de cette division-là.
Tu vois, moi, j'ai été un petit peu du côté des boys. J'ai été avec les Jets en 5e. Pourquoi je mets les Jets en 5e? J'aurais voulu les mettre en 6, ce que j'ai pas fait parce que je pense que les Blues ont une meilleure équipe. De mon côté, les Jets, on a perdu quand même beaucoup d'éléments dans l'entre-saison. Évidemment, on a perdu Pierre-Luc Dubois, Blake Wheeler, Sam Gagné, Stan Lum, Coolman, puis Bittich en tant que gardien. Mais on est allé chercher quand même Brossois, qui a quand même bien fait. Kupari aussi, Villardy et Yafalo. Donc, c'est sûr que ce n'est pas des noms qui sont couchés dehors, là, qui vont changer l'allure de tout ça. Mais moi, je pense que Connor Lebas qui va pour un contrat. Et à son âge, je vais pouvoir le chercher dans une équipe qui est probablement considérable la Coupe Stanley, soit à la période d'échange si les Jets vont nulle part ou à la fin de la saison. Donc oui, il y a du malheur avec les Jets, mais je pense que je ne dirais pas le problème est parti, parce que je pense qu'il y a peut-être encore du problème là-bas, mais on est dans une nouvelle ère du côté des Jets. J'ai vraiment aimé aussi ce qu'ils ont fait avec l'organisation cet été, impliquer les joueurs dans la société. Et moi, je pense qu'on ne peut pas cracher avec un Lebas et un Brossois. C'est deux gardiens de but qui sont quand même très dominants. On a quand même une bonne brigade défensive. Il faut oublier ce que Morrissey a fait l'année passée. On a aussi beaucoup de grosseur avec Dillon, Brendan Dillon, puis Neil Pionk aussi. Donc, c'est quelque chose qui va s'apporter de ce côté-là. Et c'est pas un mauvais top 6. C'est pas un top 6 qui est meilleur que l'année passée, mais je pense que c'est un top 6 qui travaille plus fort que l'année passée et que c'est que Nicolas Ehlers qui fait toujours bien faire dans les moments importants. Donc, je pense qu'on va chercher probablement une meilleure efficacité, meilleur patin de ce côté des Jets, et c'est peut-être ça qui nous manquait les dernières années. On était souvent lâche et on voulait pas faire ce qu'on a à faire. Cole Perfetti fait bien quand même de près de deux saisons. Niederreiter, c'est peut-être ton moins bon dans le top 6. Tu sais, Villardy, Scheifler, Scheifele et Connor est quand même un bon trio aussi. C'est gros, c'est facile, ça va ramasser. Et j'ai hâte de voir avec le nouvel entraîneur qu'est-ce qui va arriver avec la nouvelle organisation qui s'en va là. Donc, je pense qu'on n'est pas tant proche d'un 8-7, mais je pense que l'année passée, ça a été probablement une brindille dans le vélo. Mais je pense que ça va être plus facile cette année au niveau des Jets là, pour autour 5e, 6e.
Ben écoutez, du côté des Jets, je pense que la meilleure acquisition, entre guillemets, c'est Nicolas Ehlers, parce que l'année passée, il a joué juste 45 games. Exact. Donc, s'il peut jouer les 82 cette année, ça va être déjà une bonne chose. Ensuite, bon, Blake Wheeler, je ne veux pas embarquer là-dedans parce que c'est des rumeurs, mais on parlait d'un country club là, du côté des Jets qui avait entre autres Blake Wheeler, Mark Scheifele dans le country club de cette équipe-là. Là, il y en a un des deux qui est parti, donc est-ce que ça va purifier un petit peu le vestiaire? On verra bien. Mais du côté des Jets, on a toujours eu des bons top 9, mais ouais, ça ne s'est jamais vraiment concrétisé. Je ne suis pas tant un gros fan de leur défensive. T'sais, oui, Morrissey est très bon. Neil Pionk aussi. Mais tu sais, bon, Sandberg, ça a quoi son impact? DeMello, je ne suis pas plus emballé que ça. Dillon, c'est un gros défenseur, mais je ne suis pas un gros fan tant que ça. Nate Schmidt peut être fiable aussi défensivement. Mais évidemment, ils ont le gardien de but en Connor Lebas, ça, il n'y a aucun doute. Là. Puis Laurent Brossois, c'est un bon backup aussi. Et moi, les Jets, j'avais mis là, un petit peu plus haut. Parce qu'il y a une équipe entre les deux que j'aimais encore un petit peu moins que les Jets. Fait que je vais y aller avec mon numéro 4 et c'est le Wild du Minnesota. Je sais que le Wild, à chaque fois, on dit tout le temps que c'est une équipe qui n'est pas très sexy à regarder aller, mais finit tout le temps par avoir du succès. Et ça va être encore une fois le cas cette année. Quand tu regardes ça, bon, Kaprizov est encore là, Hartman, Zuccarello. Moi, mon gros problème, c'est que ton premier centre, c'est Ryan Hartman. Là, je ne suis pas tant un gros fan. Est-ce que Matthew Boldy peut aller chercher ce poste-là éventuellement durant la saison? C'est pas impossible. Marco Rossi, est-ce qu'il va réussir à se tailler une place avec l'équipe cette année? J'espère que oui. Là, ça fait un petit bout qu'on l'attend là, du côté du Wild. Il y a eu une maladie aussi pendant le COVID, ce qui n'a pas aidé non plus. C'est pas une mauvaise équipe offensivement. Défensivement, je regarde ça. Brodin, évidemment, c'est encore un défenseur qui est fiable. Spurgeon, c'est correct. Karen Addison aussi. On ajoute un Brock Faber. Quel sera son impact avec cette équipe-là? On ne le sait pas. Goligoski, c'est un défenseur vieillissant quand même. Devant le filet, ben, on va miser sur un duo de Gustafsson et Marc-André Fleury, encore une fois. Mais je ne sais pas. On dirait que du côté offensivement, j'aime mieux la formation des Jets au niveau de la profondeur. Défensivement, je dirais que c'est even là, avec le Wild. Puis devant le filet, je donne la lettre du côté des Jets. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai placé Winnipeg devant Minnesota. Mais ça va être deux équipes là. Ça va être assez close là, entre les deux, je pense.
Ouais, moi, écoute, j'ai mis les Predators en 4. Donc, évidemment, mon 3 va être le Wild. Donc, on va vite, là, parce que ça va quand même vite à soir. Mais les Predators, de mon côté, c'est un peu ce que tu disais, mais je pense que la défensive va faire la différence avec Rousseau aussi dans les filets. Donc, moi, je pense que la grosse différence va être là. Ça a toujours été une équipe difficile à jouer contre. Cette année, ça va être encore mieux. Je pense qu'on a des jeunes qui montent de ce côté-là. Et moi, pour le Wild, ce que j'aime de cette équipe-là, c'est qu'on a vraiment enlevé des éléments je pense qu'il ne fonctionnait pas. Puis là, on a rajouté Pat Maroon. Faut pas oublier 3 coupes Stanley en 3 ans. Non, c'est pas vrai, c'est des farces. Écoutez, c'est pas la raison première pour qu'on fait ça, évidemment. Là.
Non, ben, je te mentirais pas dans ma tête. Je me disais, voyons, il n'est pas vraiment en train d'ascenser Pat Maroon. Je veux dire, il ne changera pas grand dans cette équipe-là.
Non, je pense que l'addition l'année passée de Marco Rossi va aider cette année aussi. Je pense que l'addition de Mathieu Bourdie, je pense que, comme toi, probablement voler le premier centre à Ryan Hartman, qui fait pas mal, mais qui n'est pas vraiment de la classe des deux joueurs qui sont avec lui. Donc, Zuccarello, qui est un grinder, un gars qui va au filet, qui joue des garbage goals un peu à la Gallagher, mais avec un peu plus de talent et plus de vitesse. Puis on a un Kaprizov qui, de cette année, devrait se réveiller en début de saison. On est en partie de la mieux de la saison. On sait que la Wild, ça m'a l'été l'année passée à cause de ça. Et je pense que, tu sais, au niveau de notre top 12, on va être difficile à jouer. On a perdu Ryan Reeves, qui était notre gros bras, mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça, ce côté-là. On a Marcus Foligno qui peut faire la job. On a aussi Patrick Maroon qui peut faire la job cette année, mais c'est des gars qui sont un petit peu plus offensifs que notre ami de Toronto. Mais défensivement, on ne peut jamais cracher contre Spurgeon, Brody. Moi, je pense que c'est Goligovski. Goligovski vieillit, va être un bon joueur avec Faber pour lui montrer un peu c'est quoi avec National. L'année passée, Middleton a quand même bien fait malgré tout. Mais le duo de gardien de but est solide aussi. Puis Marc-André Fleury s'approche des 1000 rencontres. S'approche du troisième rang au niveau des victoires, s'approche de tout. Il y a beaucoup de milestones cette année au niveau de Marc-André Fleury. C'est sa dernière saison en contrat dans la Ligue nationale. Va-t-il arrêter? Mais moi, je pense qu'il va essayer de tout voler cette année. Essayer de faire une grosse saison, finir un autre 30, 35, 40 matchs du côté de Fleury. Et j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Si l'équipe devant lui peut jouer aussi bien défensivement que Minnesota joue. Puis oui, on parle de Minnesota, c'est pas sexy. Souvent, c'est la trappe. Excuse-moi, c'est la trappe. Mais je pense qu'on a beaucoup plus d'apports offensifs. Puis ça va être pas mal plus fun, je pense, au niveau de ce côté-là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir cette équipe-là. Pour moi, je suis joué troisième parce que je pense que ça va être plus le fun qu'on pense.
On entend dans le chat là, de Peter Saint-André-Benoît qui mentionne Kovacevic au balotage. C'est dur à comprendre la décision des Jets. Effectivement, je pense qu'avec un peu de recul, là, Kovacevic, qui fait très bien à Montréal, aurait pu se trouver une chaise comme 5-6e ouais. défenseur du côté de Winnipeg là, facilement. On a peut-être laissé aller là, à ce niveau-là du côté de Winnipeg. Sinon, pour bondir un peu sur ce que tu dis avec le Wild, tu sais, Ryan Hartman, j'ai pas de problème avec le joueur en tant que tel. Je pense juste pas que c'est sa chaise, le centre de premier trio. Je pense que ça va être un bon centre de 2-3e trio, mais c'est pas un centre là, digne d'une équipe là, qui a un centre élite de premier trio. Là. C'est, tu penses pas à Ryan Hartman. T'sais, oui, c'est un gros gabarit capable de marquer des buts. C'est peut-être un beau complément par contre pour le trio avec Kaprizov et Zuccarello, sachant que c'est pas deux joueurs qui sont hyper robustes.
Ouais.
Mais pour moi, c'est pas un centre de premier trio dans une équipe gagnante.
Non,
je pense que du côté de Minnesota, on l'a mis là parce qu'on n'a pas personne à date pour prendre cette chaise-là. Mais est-ce qu'un Boldy peut aller chercher cette chaise-là? Est-ce qu'un Rossi, est-ce qu'Eriksson Ek peut le déloger? On verra bien. C'est pas une mauvaise équipe, mais pour ma part, là, je préférais mettre les Jets dans le top 3 que le Wild du Minnesota. Mais comme j'ai dit,
c'est deux équipes. Les amis là, hein? L'an passé, on les a mis là, puis on finit quand même proche de la troisième position. Donc, on fait des séries l'année passée, mais ça a été fini en cinq matchs contre les Kings. Mais c'est quelque chose qu'on peut. Moi, je pense que les Jets peuvent rebondir cette année. Puis j'ai hâte de voir. Là. Moi, je pense que l'équipe la plus faible que j'ai placée, c'est les Predators dans le top 4. Les Jets pourraient se rendre là, mais je vois juste pas la. C'est trop. Je pense que c'est trop difficile du côté des Jets, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de depth offensif, ça, c'est sûr et certain.
Ce qui nous laisse donc, toi, troisième, tu as mis Minnesota dans le fond. On a juste switché Winnipeg puis Minnesota. Non, ça c'est vrai, mais Winnipeg, tu les as mis plus bas. Toi, c'est les Preds que tu as mis 4 puis Minnesota 3.
Exact.
Ce qui nous laisse maintenant Colorado et Dallas dans le top 2. Reste à voir maintenant si on l'a dans le même ordre. Je vais te laisser aller avec ta deuxième place.
Écoute, c'est à contre-cœur pour mon ami Jonathan Drouin que je place l'Avalanche en deuxième. Donc, moi, je pense que les Stars sont vraiment une grosse équipe. Et on va en parler par après, mais je pense que les Stars ont vraiment les éléments pour être forts cette année. Du côté de Colorado, j'ai pas haï l'été, mais je pense qu'on a essayé de faire peut-être un petit reset au niveau des effectifs, surtout de la deuxième, troisième, quatrième trio. Je pense que c'est ça la différence. Mais du côté de l'Avalanche, ça reste qu'on a probablement le meilleur premier trio dans la Ligue nationale ou presque. Là, c'est sûr que Daly Faisoff met Jonathan Drouin, c'est le premier trio. Partez pas en peur, sortez pas les lampions et non plus lancez pas des rushs au caméraman. Mais je pense que, évidemment.
Moi, je pense que ça va être une combinaison qui va être exploitée cette année.
Je pense bien. Puis, tu sais, 30 points ou 35 points l'année passée, je pense que Jonathan Drouin, ça sera pas quelque chose de rare cette année. On a quand même laissé partir beaucoup de monde. L'Arcelor qui a vraiment pas fait la job, je pense, en série. Newa qui est rendu le Canadien. Rick Johnson, Johansson, le gardien de but. Nieto qui est parti. J.T. Comfort avec Evan Rodriguez aussi. Mais on a ajouté Miles Woods. Puis, je pense que les fans des Devils, comme Savanti, va le dire. Miles Woods, quand même, un joueur nord-sud. Pas cher à 2,5 millions par année, qui va vraiment t'apporter quand même beaucoup de vitesse offensive sur un troisième trio qui est peut-être plus meilleur cette année du côté de l'Avalanche. Ryan Johansson aussi, au niveau du centre dans le deuxième trio, va vraiment aider vraiment avec, je pense, son expérience. Russ Colton aussi, même chose, qui devrait jouer sur le troisième trio avec Miles Woods. Et Jonathan Drouin, on va pouvoir le porter où ce qu'on veut. Est-ce qu'on va le faire jouer contre les meilleurs trios de la saison? Je pense pas. Il va jouer un avantage mix, ça c'est sûr. Est-ce qu'il va jouer sur une pointe ou sur un les oreilles comme qu'il faisait dans le junior? J'ai aucune idée. Mais sache que va enfin avoir un avantage numérique de feu de ce côté-là. Que dire que défensivement de cette équipe-là? Samuel Girard, Jack Johnson qui s'est racheté cette année, qui va jouer probablement avec Samuel, Josh Manson, Bowen Byram et Taves Makar qui sont là dans le premier duo. Je pense que c'est peut-être juste devant le filet encore. Est-ce que Georgiev et Francouz vont faire la job? Je pense que c'est là le point d'interrogation du côté de l'Avalanche. C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas premiers. Mais écoute, ça va être une chaude lutte au sommet, je crois, entre ces deux équipes-là. Et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec Nichushkin.
Nichushkin.
Donc, est-ce qu'il va vraiment exploser cette année? Faut en voir. Il ne faut pas aussi parler de Thomas Tatar qui est rendu là aussi. Donc, on a quand même un troisième trio d'expérience. Donc, est-ce qu'on va avoir plus d'attaques, je pense, que les Stars? Seulement sur le premier trio, oui. Défensivement, je pense qu'on est meilleur, mais je pense qu'on a plus d'adeptes du côté des Stars.
Ben écoute, moi, c'est exactement pour cette raison-là pour laquelle je les ai mis au deuxième rang. Quand tu parlais des gardiens de but, je pense que c'est là où je suis pas mal le moins safe du côté de l'Avalanche. Parce que tu regardes l'attaque, là, effectivement, là, il a plus de profondeur, je pense, que l'an dernier, avec l'ajout aussi de Thomas Tatar et Myers Wood. On a ajouté Jonathan Drouin. Moi, honnêtement, je m'attends à ce que Jonathan Drouin connaisse une très belle saison cette année. Je pense que juste le fait qu'il soit à l'extérieur de Montréal, ça va lui faire du bien. Mm-hmm. En plus, il retrouve son bon chemin, Nathan MacKinnon. Moi, je ne serais pas surpris de revoir ce duo-là. Qui nous refasse revivre des moments qu'ils ont fait là, dans les rangs juniors là, avec les Mousses d'Halifax. Je pense que ces deux-là peuvent avoir du succès ensemble. En plus, tu ajoutes Rantanen pour compléter ce trio-là. Évidemment, la défensive monte Makar, Taves, Byron, Manson, Girard et Johnson. Mais c'est ça, c'est devant le filet. Là. Est-ce que Georgiev et Francouz, que je pense qu'il ne commencera pas la saison, ce qu'il a dit, il avait été opéré là, au début de durant la saison mort, puis qu'il a raté le début de la saison. À quel point ça va faire mal sans faire de mauvais jeu de mots à cette équipe-là. C'est juste là, moi, que j'ai un gros point d'interrogation parce que quand tu compares avec les Stars qui ont Jake Oettinger qui est sur la pente montante, ça se dit mal, mais en tout cas, il est en progression, il est en évolution là, depuis quelques années. Il devrait être en remontante. Mais ouais, du côté des Stars, je pense que l'équipe là, qui mise sur un meilleur gardien numéro 1. Et tant qu'à parler des Stars, évidemment, on les a mis les premiers les deux. Mais tu sais, quand tu regardes cette équipe-là, qui a ajouté Matt Duchesne là, cet été, Dadonov, depuis qu'il s'est joint aux Stars, là, tout à coup a retrouvé le goût de jouer au hockey, qu'il n'avait pas nécessairement à Montréal. Mais tu regardes la première ligne encore avec les Robertson, Hintz puis Pavelski en bon vétéran qui est là. Jimmy Benn avec Johnson qui a vraiment une belle première saison l'année passée. Duchesne qui est là, Seguin qui est là, Marchman qui est là. Et tu regardes même sur la quatrième ligne, tu as Dellandrea qui est un jeune espoir, Faxa qui est là depuis des années, Craig Smith qui est pas mauvais défensivement. La défensive, par contre, est moins bonne que celle de l'Avalanche. On a quand même un vétéran, Ryan Suter, Miro Iskanen, lui qui est très excellent, Thomas Charlie qui est pas mauvais non plus. Akampa, c'est pas la mer à boire, mais c'est un défenseur qui peut amener de la robustesse puis un côté défensif. Et Zalendal qui est pas mauvais non plus. Il y a Nils Lundqvist qu'on attend toujours sa vraie éclosion du côté des Stars. On avait payé quand même un gros prix là, des Rangers là, pour faire son acquisition. Mais c'est ça. Moi, de mon côté, je suis juste pas capable de gager contre un Jake Oettinger. Et c'est pour cette raison-là que j'ai mis Dallas au premier rang.
Ouais, puis il ne faut pas mettre non plus en considération Wedgwood là, qui n'a pas été mauvais l'année passée, surtout, là, mais je pense qu'Oettinger est présentement parmi les top 3, sinon dans le top 2, Ligue nationale, au niveau des gardiens de but. Moi, ce que j'aime de cet alignement-là, c'est le balancement. Donc, dans chaque ligne, on a un joueur offensif, on a un playmaker et on a un joueur robuste qui va au filet. Donc, les quatre lignes sont faites de la même façon. Et quand tu mets un Tyler Seguin avec Mason Marchman puis Matt Duchene sur une troisième ligne, aïe aïe. C'est trois joueurs à Montréal, c'est un premier trio, là, on s'entend. Là. Donc, il faut vraiment voir ça comme ça. Ils sont gros, sont rapides. Ça n'est pas pour certains. Là. C'est sûr que Jimmy Benn a ralenti, on va se le dire. Robertson est incroyable. Pavelski, on dirait qu'il n'a jamais vieilli. Probablement le Brad Pitt du hockey. Donc, même à 64, il va avoir l'air encore 32. Donc, ça, c'est à côté-là. Et je m'attends juste à des belles choses des Stars. Je pense que le problème va probablement arriver en série ou ce que Ottinger absolument fait bien, mais est tout seul. Donc, j'espère du côté de cette équipe-là, on va être plus préparé au niveau offensivement, mais surtout défensivement au niveau de l'approche des séries. Mais ça n'empêche pas qu'on va probablement avoir de la place pour venir à chercher de l'aide au niveau des transactions de ce côté-là. Et, tu sais, défensivement, Ryan Suter, ça fait longtemps qu'il trouve sa bosse. C'est pas le plus rapide, c'est pas le meilleur, mais c'est un gars qui est encore très bon défensivement, une bonne première passe. Et Scannan, qui est complètement incroyable. L'année passée, je pense qu'on l'a tout découvert à la nationale. Et après ça, on a ajouté des joueurs qui sont quand même robustes, mais qui sont quand même aussi des jeunes. Donc, l'avenir est bel du côté des Stars aussi. Tu sais, les Stars, en années 90-2000, on les écoutait, puis ils étaient toujours bons, ils faisaient toujours passer des séries, puis c'est ça de l'ADN, je pense, des Stars. Et à chaque année, on ne peut pas voter contre eux autres. On ne les vote pas premier tout le temps, mais je pense que cette année, l'Avalanche va avoir de la difficulté. Puis honnêtement, ça va être vraiment le fun de les voir jouer, parce que c'est toujours des matchs robustes, et ceux qui aiment un peu voir des capitaines qui défendent leurs joueurs, Jamie Benn va toujours être là à tous les matchs pour faire ce genre de choses-là.
Donc, Steph, on n'a pas eu tant de différence que ça. Toi, tu as peut-être plus placé les Preds un peu plus haut. Savanti, on va dévoiler son classement qu'il avait mis là, au complet. Là. Lui qui avait mis Chicago 8e, Arizona 7e, Jets 6e, Preds 5e, 4e. Là, 4e, c'est... OK, Saint-Louis. Saint-Louis 4e quand même, c'est assez haut. 3 Minnesota, 2 Dallas et 1 Avalanche Colorado. Donc, quelques balles courbes là, dans son classement versus le nôtre, là, parce qu'évidemment, on n'a pas la vérité infuse non plus. Là. Mais,
on l'avait le passé.
Mais je suis quand même surpris, Saint-Louis aussi haut que ça. Sinon, Peter qui mentionne dans le chat, et c'est excellent, qu'ils vont réclamer Primo. Colorado, ils bougent des trous avec les anciens du Canadien. C'est vrai, on a maintenant Drouin, Lekkonen.
Ça fonctionne, Calis, c'est ça qui est le pire.
Ouais,
Lekkonen a quand même gagné Coupe Stanley l'année d'après avoir été changé ou la même année. Donc,
la même année.
L'harceleur s'est arrivé aussi. Lekkonen, là, on est rendu de Drouin qu'une autre Coupe Stanley, là, ça serait le bout de la marche, je pense.
Ouf. Ça fait... Imagine que Drouin se claque une saison sans des gains 80 points.
Avec une coupe Stanley à la fin. Bijou Montréal. Là.
Je pense qu'il y aurait une coupe de partisans qui serait en furie à Montréal. Tatar aussi. Ils ont ajouté Tatar aussi cette année, que Peter mentionne dans le chat. C'est très vrai aussi.
Il serait sûrement demandé à tout le monde en parle, puis tout le monde l'aimerait soudainement.
Ouais, probablement. Parlant du Canadien, écoute Steph, pour conclure le podcast, on va y aller avec quelques nouvelles. On va parler du Canadien, évidemment, parce que le camp d'entraînement qui bat son plein. Il y a eu beaucoup de retranchements hier, dont la décision de renvoyer finalement David Reinbacher ou Reinbacher, selon...
Même lui-même ne le sait pas, guys.
Donc, on décide de le renvoyer du côté de l'Europe. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aurais préféré le voir du côté du Rocket? Est-ce que l'envoyer en Suisse, c'est parfait?
Du tout. La RLE, la Ligue de Suisse, est quand même très, très bonne. Et faut arrêter. C'est un jeune de 18 ans. On a passé des années à dire qu'on brûlait nos joueurs dans la Ligue nationale. Je pense que Reinbacher a fait un très bon camp. Est-ce qu'il est rendu là? Non. Est-ce qu'il est rendu à Laval? Non. Faut pas oublier que Laval, il y a beaucoup de monde qui vont se battre pour un poste à Laval aussi. Donc, on a la chance de le renvoyer en Suisse pour une dernière saison. Va brûler la Ligue là-bas. Montre-toi que tu es capable. Puis, montre-nous des bonnes nouvelles. Et je pense que c'est là qu'on s'en va du côté de Reinbacher. Puis, c'est parfait. Moi, je pense que c'est une belle décision. Et c'est une décision pour le jeune. Il va prendre l'expérience là-bas. Il va devenir un jeune vétéran là-bas. Choisir le premier choix de repêchage. Il va avoir plus de responsabilités là-bas. Et tu sais, maintenant que la pandémie est terminée, le Canadien va être plus présent dans ces places-là. Donc, évidemment, on va probablement parler plus souvent avec lui. Là.
Ben, écoute, tu as pas mal dit ce que je m'en allais. Là, du côté de la Suisse, il va jouer un gros rôle avec son équipe. À Laval, on ne sait même pas dans quelle chaise qu'on aurait pu le placer parce qu'évidemment, il y a plusieurs défenseurs également au camp. On parle des... Norlinder, je pense qu'il n'a pas été encore retranché, mais ça m'étonnerait qu'il commencera à Montréal. Struble, lui, a été retranché. Probablement que William Trudeau a été retranché aussi. Donc, tu sais, ça s'en vient pas mal jam-pack là, du côté de la défensive du Rocket. Ça, c'est à part des autres vétérans étiquetés un peu plus AHL, mais qui vont quand même jouer là-bas. T'sais, on parle d'un Toby Bisson, entre autres, là, des joueurs de cette trempe-là. Mais sinon, tu sais, je pense qu'il va être mieux de jouer le plus de minutes qu'il peut jouer possible là, du côté de son équipe en Suisse. L'année passée, il était déjà rendu le premier défenseur là-bas. Donc, cette année, il devrait être, encore une fois, là, très utilisé du côté de la Suisse. Sinon, dans les autres joueurs qui ont été retranchés, dans les, je ne dirais pas surprise, mais dans les joueurs de premier plan en devenir, si on veut, Joshua Roy qui a connu un excellent camp, mais je pense que du côté canadien, c'est une bonne chose de l'envoyer à Laval pour commencer. Puis on verra bien en saison comment ça va. Si on voit qu'il brûle carrément la Ligue là-bas, ben, on pourra toujours le remonter éventuellement. Mais je ne pense pas qu'il y ait des effets néfastes là, à le faire débuter à Laval. Sean Farrell, je pensais que ça allait durer plus longtemps un peu son aventure, lui qui avait de l'expérience de la LNH, mais je suis très content qu'on ait pris cette décision-là parce que ça avait été un peu difficile quand même l'an dernier qu'il avait joué ses matchs dans la LNH. Là, on voyait qu'il n'était pas nécessairement prêt.
C'est pas un gros cas non plus. Ça a été pas une décision facile du côté du Canadien, mais sans te couper ce match, je m'excuse, mais ça n'a pas été un gros cas. A fait un job OK, mais n'a pas été un des joueurs qui devait, selon ce qu'on pensait, devancer les autres. Là.
Non, puis tu sais, c'est ça. Je pense que du côté de Laval, ça va juste être bon justement d'avoir des Farrell, des Joshua Roy, entre autres, là, pour pivoter cette attaque-là. Je pense qu'il va y avoir du punch très intéressant à l'attaque du côté du Rocket. Sinon, Owen Beck a été retranché aussi. Lui, il va s'en aller du côté des rangs juniors parce qu'il ne peut pas jouer dans la OHL et pour dans la AHL. Et pour ceux qui se demandent pourquoi il ne peut pas jouer dans la AHL, mais que Shane Wright, oui, c'est que Shane Wright a eu le statut de joueur exceptionnel dans la OHL, donc il a joué à 15 ans. Donc, à cause de ce statut-là, il peut jouer dans la AHL là, à l'âge qu'il a, même s'il est encore éligible junior, ce qui n'est pas le cas de Owen Beck qui n'a pas ce statut-là. Donc, lui doit retourner junior. Va jouer avec les Peaks de Peterborough. Je ne sais pas comment cette équipe-là va se débrouiller cette année. Là. Eux qui avaient mis pas mal tous leurs œufs dans le même panier l'année passée là, pour faire un bon bout de chemin. Ils se sont rendus à la Coupe Memorial d'ailleurs. Mais souvent, les après-Coupe Memorial, c'est plus difficile. Donc, risque de changer d'adresse là, durant la saison pour se joindre à nouveau à une équipe qui sera dans la course pour les grands honneurs. Donc, pour Owen Beck, il va peut-être manger un peu plus son pain noir là, pour débuter la saison. Mais rendu dans le mois de janvier, devrait être échangé à une équipe là, qui aspire aux grands honneurs. Sinon, William Trudeau, qui a été retranché, a connu un excellent camp lui aussi. Mais sans dire que les dés étaient pipés à ce niveau-là, je pense que c'est quand même ça. Du côté du Canadien, on a pas mal déjà nos défenseurs. Ça aurait été
surprenant. On n'a pas de place.
Il n'y a pas de place. T'sais, c'est déjà des jeunes qui sont là à la base, à part Madison et Savard, mais sinon le reste, on a déjà des Harris, des Jack High, des Barron. Même Barron, son poste n'est pas tant garanti. C'est, encore une fois, c'est un camp un peu en deux temps dans son cas. Des fois, il paraît très bien, des fois, il paraît très mal. On l'a vu contre le match préparatoire contre les Leafs, qui a essayé de déjouer un joueur des Leafs en arrière de son propre filet. Puis ça a donné un but directement du côté des Leafs. Okay. Mais Barron, je suis moins en moins convaincu que ça va devenir un défenseur d'impact dans la LNH. Là. Une belle mobilité, belle première passe, mais manque d'assurance, manque d'aplomb dans son jeu. Et ça, malheureusement, c'est pas le genre de choses que tu peux corriger ou que tu enseignes, c'est que tu l'as ou tu l'as pas.
Exact. Je pense qu'avec William Trudeau, là, puis ça va juste être parfait dans la ligne américaine parce qu'on va venir de chercher plus de vétérans. William Trudeau devrait avoir un rôle plus de vétéran de ce côté de la ligne américaine. Et moi, le défenseur que j'ai été le plus surpris, c'est John Parker Jones, qui semblait arriver avec vraiment une détermination. Faut pas oublier que John Parker Jones a joué avec Trois-Rivières l'année passée en début de saison pour se ramasser avec la ligne américaine après avec le Rocket. Il a quand même fait belle figure. Évidemment, c'est un gros bonhomme. Ça, c'est 240 livres. Mais il a quand même il a joué avant défenseur pas mal aussi avec le Rocket. Donc, j'ai vraiment aimé son camp d'entraînement. Il a été statué défenseur. Et comme on dit depuis trop longtemps, on n'a pas de place au niveau défensif à Montréal présentement. On a comme 9 défenseurs qui sont calibre Ligue nationale. Donc, c'est parfait de voir ce nombre de jeunes-là aller en bas, se battre pour un poste, puis avoir la chance de jouer sur des postes qui sont plus réguliers, mais surtout sur des postes qui vont être plus influents dans leur carrière. Donc, moi, je suis d'accord avec ces décisions-là.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, même, t'sais, on n'a pas de place à l'attaque, mais même en défensive, mais même à l'attaque, là, tu sais, je veux dire, tu regardes présentement, il y a Emil Heinemann là, qui est encore là. Ouais. Honnêtement, ça, c'est un qui m'a peut-être un peu plus déçu dans le camp du Canadien. Il avait l'air confiant qu'il allait se tailler un poste. Puis, je pense que des joueurs comme Joshua Roy connaissent un meilleur camp que lui, entre autres. Mais on n'a pas vu le Emil Heinemann qu'on voyait nécessairement à Laval. Puis c'est à se poser la question, est-ce qu'il va retourner à Laval? Moi, j'ai comme l'impression qu'il va peut-être débuter là-bas.
Probablement.
Puis, parce qu'il n'a quand même pas joué tant que ça du côté de Laval. T'sais, il a joué en Suède, après ça, il est arrivé vers la fin de la saison. A joué quelques matchs en saison, plus les séries. Mais sinon, je pense que peut-être une moitié de saison dans la Ligue américaine, ça ne ferait pas de tort là, à Heinemann. Sinon, bon, dans les autres joueurs qui ont été retournés, bon, il y a Yann Michak aussi, que lui, ça a été un choix de deuxième ronde, puis on attend toujours qu'il se passe de quoi avec lui. Là. Je pense que malheureusement, en raison des arrivées de joueurs comme Joshua Roy, Sean Farrell, Heinemann qui est là, comme l'impression que ça va être un espoir qui va tomber dans l'oubli rapidement. C'est dommage parce que c'est un bon joueur défensif, mais qui est capable d'amener de l'attaque aussi. Sauf qu'il n'a pas été placé dans une bonne chaise. Ben, dans une bonne chaise, je veux dire, il n'a pas été placé dans une chaise pour mettre en valeur ce jeu offensif-là jusqu'à maintenant. Puis j'ai pas l'impression que ça va se faire également cette année avec les joueurs qui sont déjà là. Je pense qu'il va être encore une fois relégué un rôle de troisième ou quatrième trio du côté de Laval. Puis peut-être même, c'est pas impossible qu'on le voit à Trois-Rivières là, éventuellement, tellement qu'il y a des joueurs qui devront compléter cet alignement-là. Il y a tellement de monde que c'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui vont aller du côté des Lions à Trois-Rivières. Est-ce que ce sera Michak? On verra bien. Mais présentement, c'est un espoir qui n'est pas vraiment bien placé actuellement. Sinon, du côté du Canadien, ben, il reste deux matchs hors concours, dont un dès demain contre les Leafs, puis l'autre, c'est genre samedi prochain. Donc, toute la semaine, ils n'ont genre pas de match. C'est un calendrier assez bizarre là, du côté du Canadien. Je pense qu'il reste de quoi comme 38 joueurs, donc il va y avoir d'autres décisions à prendre, mais on commence à voir un peu plus à quoi que l'alignement va ressembler. Là, je ne pense pas qu'on va avoir de grosses surprises. Les joueurs qui auraient pu se tailler une place durant le camp, qui auraient pu causer une surprise entre guillemets, mais ils ont pas mal tous été déjà retranchés. Donc, j'imagine que c'est une question de temps avec les joueurs qu'on est pas mal sûrs qu'ils vont être retranchés, vont prendre le chemin également de Laval. Donc, il n'y aura pas de grosses surprises là, d'un joueur de 18 ans agressif.
Non, puis écoute, le dossier Kaylen Primo aussi, qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Évidemment, il faut qu'il soit passé au balotage pour retourner dans la Ligue américaine. Mais on a Jacob Dobes qui a vraiment bien fait à date dans le camp d'entraînement, puis on ne le souligne pas assez. Mais je pense que Kaylen Primeau doit revenir à 3h présentement avec Jacob Dobes. Et ce que j'aime du rôle de 35 joueurs qui restent, c'est que oui, on a nos contrats réguliers, on a nos 48 contrats signés du côté du Canadien. Mais la chaise, faut pas oublier la chaise. Martin Sylvain en a parlé, la chaise. Si tu veux une chaise, c'est important, il y a toujours une chaise. Mais la chaise d'avant peut toujours faire une chaise. Donc c'est important, la chaise. Là, je ne ris pas de Martin Saint-Louis, c'est juste drôle, c'est cocasse, il faut en rire un peu. J'adore Martin Saint-Louis, mais incroyable ce qui peut sortir de les théories de cette personne-là. Et ce que j'aime au niveau de l'offensive, c'est qu'on a quand même beaucoup de depth. Et on va se dire qu'Anzo, on les a classés dernier, devrait finir dernier aussi de cette association-là. Il devrait se battre pour moi, je pense, dans les 7-8 dernières Ligue nationale. Mais on a quand même vu une progression au camp d'entraînement. Et là, partez pas en peur, là, on n'aura pas de joueur de 56 buts à part Caulfield. Mais j'aime ce que je vois. Josh Anderson a l'air d'être en santé, a l'air d'être tout feu, tout flamme.
Sean Monahan,
incroyable. En santé, n'a pas mal là, quand il patine. Donc ça, c'est un atout de plus. Et ça, c'est le Sean Monahan que les Flames ont eu pendant des années. C'est un fabricant de jeu. Quelle passe a fait sur le but de... Je ne sais pas c'est qui a fait le but, là, mais écoute, ça avait toute beauté.
Anderson, je pense que c'est moi qui ai fait ce but-là.
C'est pour ça que Kirby Doug fait bien. A de la hargne dans ses yeux aussi. Donc, se laisse pas aller, se laisse pas faire. Et que dire de tous les autres. Donc, Alex Newhook ne fait pas un mauvais camp d'entraînement non plus. Beaucoup de rapidité. Donc, de voir un peu ce que ça va donner au niveau du jeu. Slakowski n'a pas un mauvais camp non plus. Sans m'avoir appris, sans m'avoir des meilleures mains cette année. Mais je pense que ça va quand même être un combat à l'interne et j'ai hâte de voir ça du côté du Canadien dans les premières rencontres.
On va lire une couple de commentaires dans le chat avant de parler de d'autres sujets parce qu'il y en a quand même plusieurs.
Ouais.
Du côté de Savanti, on parlait tantôt de la raison pour laquelle il a placé les Blues au quatrième rang. Lui, il dit qu'il vise l'expérience et la vieillesse, la maturité des joueurs. C'est l'année, ça passe sous sa casse avec eux. Donc, il imagine une belle année en combativité. C'est sûr que au niveau des vétérans, il y en a dans cette équipe-là. Mais justement, est-ce qu'il manque un peu de 109? Moi, c'est ça qui me met en doute là, du côté des Blues. Mais ça se peut très bien que l'expérience va transporter cette équipe-là dans le top 4. On a Alex qui nous a mentionné, est-ce qu'on a vu la fin de Connor Bedard contre Théo Red Wings ce soir, Steph? Malheureusement, non. Vu qu'on est en podcast, je n'ai pas la game.
Oui, je l'ai vu.
Tu l'as vu?
Aïe! Le problème, c'est que c'est en pré-saison. Le problème, c'est que je pense qu'il va être capable de le faire en saison. Mais comme tu disais tantôt, quand on est là, les gens vont savoir comment jouer contre. Il va falloir qu'il soit un magicien. Mais oui, quelle feinte, hein? C'est un droitier, donc arrive pour lancer, faire une feinte avec l'écran du défenseur, passant de ses deux patins, comme dans le beau junior. Donc, c'était incroyable, c'était super beau à voir. Puis écoute, c'était pas n'importe qui, là, quand même, du côté des Red Wings. Donc, ouais, impressionnant.
Simon Edvinson, défenseur.
Exactement. Donc, très belle feinte, oui, je l'ai vu. Je ne manque rien de mes Red Wings en passant.
Lorsqu'on parlait de Justin Barron tantôt, il y a un bon tir, mais lacune défensive, malheureusement, pour moi. Harris et Barron ne seront plus là dans 2 ans max.
Oh, Harris en plus.
Mais c'est ça le problème. C'est que là, présentement, du côté du Canadien, là, on a Kaelin Gooley, on a Jack Eye, on a Harris, on a. Voyons, il me semble que j'en manque un peu. Gooley, Harris, Jack Eye. Là, on va avoir Logan Mayhew qui s'en vient. On va avoir Rein Bahar qui s'en vient.
Mm-hmm. Kovacevic.
On a Kovacevic. On a
l'homme de côté.
William Trudeau qui a montré très belle chose. Puis je ne suis pas mal sûr que ça va devenir un joueur de la LNH. Si ce n'est pas à Montréal, ça va être ailleurs. Mais je pense que Trudeau a ces habiletés-là pour jouer dans la LNH. Mais là, on parle beaucoup de Adam Engström en Suède qui va très bien aussi.
Ouais.
Qui est tout le temps sur la première paire de son équipe en Suède. Et on a le défenseur russe qui nous disait « fuck all » au dernier repêchage. Bogdan Konishnikov.
Hey, oui, il est premier dans la Russie. Mais ouais. C'est vrai, ça.
Premier défenseur de son équipe à 20 ans. C'est rare qu'on voit ça dans la KHL. Puis là, je suis en train de dire que c'est le prochain Kyle Makar. Mais tu sais, c'est quand même des défenseurs qui sont intéressants. Puis là, où je m'en vais avec ça. Puis tu sais, Mathias Norlinder qui a eu un bon camp, on va se le dire. Là, c'était laborieux l'an dernier. Mais cette année, il montre plus sa mobilité. C'est un talent de passeur. Sa lacune en défensive va toujours rester là. Ça ne se corrigera pas. Non. Mais c'est ça qu'on veut voir de Norlinder. C'est un défenseur qui amène de l'offensive. Fait que tu sais, à un moment donné, là, il n'y aura pas de place pour ce monde-là. Fait que tu sais, dans 3-4 ans, là, qui va partir du côté du Canadien? Enfin, tu sais, Barron, c'est un joueur qui commencerait à être inquiet. Jordan Harris, Harris, c'est pas mauvais. Un défenseur qui est un peu un couteau suisse. Mais est-ce qu'il va être capable d'en faire assez? Puis il y en a un, puis là, je sais que tu ne m'aimeras pas, Steph. Mais Jack Eye, moi, j'aurais peur pour lui, honnêtement.
Mais Jack Eye va toujours tomber un 6-7e défenseur, à moins que l'apport offensif soit meilleur. Moi, je pense que si on part dans 2-3 ans, c'est un David Savard qui devrait partir. T'sais, David Savard ne jouera pas jusqu'à 41 ans avec le Canadien.
C'est sûr que les vétérans vont finir naturellement par s'en aller. Mais
je sais qu'il ne sera pas là. Mais
un paquet de jeunes qui s'en viennent. On propose, il y en a 6 là, qu'on peut habiller à chaque soir. Fait qu'il y en a qui vont servir de monnaie d'échange éventuellement pour peut-être combler cette lacune-là à l'attaque qui nous manque. C'est pas impossible, mais c'est un beau problème, honnêtement. Je veux dire, c'est mieux d'avoir trop d'espoir prometteur comme ça que pas d'en avoir un maudit comme c'était le cas.
T'en as plein que t'as pas nommé. Lidstrom, vas-tu faire la job dans 2-3 ans? On le sait pas. Aussi, c'est une progression au niveau de Brady Keeper qui a fait quand même bien aussi dans le camp d'entraînement. Son nom commence à tirer un petit peu à gauche puis à droite. Donc, tu sais, moi, je suis pas un fan de Norlinder. Je pense que Norlinder, malheureusement, à 23 ans, n'a pas démontré encore que c'est un joueur de la Ligue américaine. N'a pas non plus démontré que c'est un joueur national. N'est pas ça, pas fait grand-chose dans la Ligue américaine. Il va falloir vraiment qu'il se fie à son pif offensif. En même temps, il faut que ça joue défensivement. Puis il y a Jaden Struble, on a cherché en fin de la saison du côté de la Ligue nationale, qui joue avec les Rockets aussi, qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'est un joueur qui va essayer de tailler une poste.
C'est quoi? On a nommé tous ces joueurs-là, puis on a oublié le joyau à la Ligue bleue du Canadien. Lane Hudson!
Lane Hudson qui est encore là, qu'on va voir dans 2-3 ans, anyway. Donc c'est parfait. Mais je pense que tout ce beau monde-là va se trouver une place éventuellement, soit dans la Ligue américaine, soit dans la Ligue nationale. Mais je pense que ton meilleur espoir, c'est Lane Hudson. Et lui devrait arriver dans 3 ans, en tout cas, dans le tapis ou dans 2 ans dans le tapis, en première ligne.
Ben, dans le cas de Hudson, moi j'ai comme l'impression qu'on va peut-être y aller. Compte tenu son gabarit et tout ça, je pense pas qu'on va le garrocher dans la gueule du loup tout de suite. C'est pas impossible qu'on le signe à la fin de cette saison, mais d'après moi, l'année prochaine, ça va être Laval. Puis l'année d'après, on verra comment ça va aller. Mais je pense pas que c'est un joueur qui va faire le saut tout de suite dans la LNH. Mais tu sais, c'est le fun, par exemple, d'avoir cette discussion-là dans le sens que enfin, on commence à récolter les fameux fruits de ce reset slash reconstruction. Ça a commencé il y a quelques années. Tu sais. Je pense qu'il y a eu le gros repêchage, justement, là, de l'année qu'on a repêché comme Joshua Roy. On a repêché également William Trudeau dans la même année. Mm-hmm. Et c'est pas le repêchage de Slav, c'est le repêchage de Mailloux, je pense. Et Logan Mailloux aussi. Ouais. Le premier gros draft qu'on a eu avec Ken Hughes, on a été chercher Slavkovski. Méchard, qu'on n'a pas encore parlé aussi en attaque. Un camp semi, je pense, côté de Méchard. Là, il a connu un meilleur camp l'année passée, contrairement à cette année. Mais quand même, c'est un joueur qui a des atouts offensifs. On verra bien s'il va réussir à transposer tout ça. Mais là, on a Slav, on a Lane Hudson, on a Adam Ekstrom. Ça pourrait être une très belle cuvée, celle-là de 2022, du côté du Canadien. Ouais. Et puis encore plein d'espoir qu'on n'a pas nommé, là, qui pourrait éventuellement cogner à la porte. Il y a Peter qui mentionne dans le chat, Luke Tuck. Est-ce qu'il va réussir à se tailler une place éventuellement? C'est un joueur, un gros joueur qui peut jouer la carte de la robustesse. Tyce Melanick, qu'on a été allé chercher, c'est un ancien choix de deuxième tour, devrait jouer à Laval cette année aussi. Il a connu une année difficile l'année passée. Là, il n'a pas joué une bonne partie de l'année à cause de problèmes personnels, en espérant que ça s'est replacé à ce niveau-là. Mais tu sais, ça a quand même été un ancien choix de deuxième ronde. Donc, tu sais, je veux dire, à quelque part, il doit avoir un certain talent aussi. Puis c'est encore là, tu regardes les choix du Canadien qui ont dans les prochaines années, encore trop. Fait que du côté du CH, je pense qu'on est très bien placé, mais c'est ça, il y en a quelques-uns qui vont devoir servir éventuellement de monnaie d'échange pour aller chercher des joueurs plus à court terme. Ben, à court terme, qui sont prêts déjà, parce qu'on ne pourra pas habiller tout ce bon monde-là dans les 4-5 prochaines années.
On ne pourra pas, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a toujours des blessures, puis on va avoir enfin une petite dette au niveau défensivement. Donc, on va pouvoir habiller des gens qu'on va pouvoir. La Ligue américaine va pouvoir aussi se développer de bonne façon. Et tu sais, à ce temps, les blockbusters, les gros deals avec des joueurs d'exception, avec des joueurs que tu veux ramener pour les séries, ça prend des bons prospects à envoyer. Oui, les équipes aiment les choix de repêchage, mais on aime toujours savoir aussi un bon jeune qui s'en vient. Donc, évidemment, le Canadien a pas mal en banque de ce côté-là. Reste à voir ce que ça va donner au bout de la ligne. Mais comme tu dis, c'est un beau problème. On est encore dans les hypothèses. Évidemment, il n'y a pas personne qui fait que joue un incident dans ces joueurs-là. Mais je pense que si on regarde la filière de personnes qui s'en viennent du côté du Canadien, le Canadien de Montréal est quand même parmi les équipes où il va y avoir le plus de jeunes joueurs éventuellement. Là.
Ben, c'est qu'à un moment donné, c'est la loi de plus que tu en as, plus que tu as de chance d'en pogner un bon. Puis je pense que du côté du Canadien, on a beaucoup en termes de quantité. Maintenant, ça va être. Mais tu sais, on nomme beaucoup de noms, mais il manque encore le joueur élite à l'attaque qu'on n'a pas dans les espoirs présentement. T'sais, je veux dire, Joshua Roy, dans un monde idéal, va peut-être jouer sur un deuxième trio, peut-être troisième, on ne le sait pas. Mais présentement, c'est pas un joueur qui, moi, je qualifie d'espoir élite au niveau de l'offensive.
Ouais.
Sinon, Philippe Méchard, même affaire. Je veux dire, c'est un joueur qui peut amener de l'offensive, mais ça va-tu devenir un joueur de 30-35 buts qui peut te faire 70-75 points? J'ai des gros doutes. T'sais, même Slavkovski, on ne sait même pas c'est quoi son plafond le rendu là. Je veux dire, on il est encore tôt et c'est seulement sa deuxième année. Il a été blessé une bonne partie de l'année dernière, donc on va lever le pied du gaz un petit peu. Là. On va lui laisser le temps de se développer, surtout que les gros joueurs comme ça, c'est plus long. Aller voir Joe Thornton, sa courbe, comment c'était dans le temps. Aller voir Tate Thompson, comment ça a été long aussi.
Mm-hmm.
Fait que tu sais, on va rester patient, mais si on est réaliste, est-ce que c'est un joueur qui peut devenir un marqueur de 35-40 buts puis faire 80-85 points? On dirait que je ne le vois pas ça non plus. Fait que tu sais, il nous manque toujours peut-être un autre attaquant élite. Tu sais, oui, on a confiance, on a Suzuki. Dak, est-ce qu'il peut devenir ce joueur-là qu'on a un très gros camp, Kirby Dak? Donc, c'est assez encourageant, mais est-ce qu'il peut vraiment remplir ses attentes de joueur qui a été repêché troisième au total en 2019? La balle est dans son camp, mais on n'a pas encore de certitude présentement. Peut-être pas une grosse saison cette année, puis il va changer d'idée.
Ouais.
Mais honnêtement, il faudrait vraiment, encore une fois, finir dans la cave pour aller chercher ce joueur-là. Ça soit là, c'est sûr que pour ces joueurs-là, il faudrait que le Canadien soit vraiment mauvais parce que ça va être des choix top 3. Mais Cole Iserman, c'est vraiment un très bon espoir, là, le meilleur espoir américain cette année. Sinon, McLean Celebrini, là, qui devrait être aussi parmi les discussions pour le choix de premier overall. Mais si on peut chercher un attaquant là, dans ces eaux-là, c'est ça qui nous manque du côté du Canadien. Vraiment un game breaker à l'attaque. Et c'est peut-être en se servant de nos défenseurs qu'on a en trop qu'on va être capable d'aller chercher ces éléments-là qui manquent. On a vu là, Ken Hughes qui n'a pas hésité là, à faire ça. Il a sacrifié Romanov pour aller chercher Kirby Dach. Je veux dire, on avait cette profondeur-là en défensive, puis on a décidé de sacrifier Romanov, puis ça nous a donné Kirby Dach. On peut répéter la même chose là, dans quelques années avec un autre bon défenseur. Qu'on juge qu'on n'a plus vraiment de besoin parce qu'on a des meilleures options. Là.
Effectivement. Puis c'est comme tu dis, je pense qu'on c'est beau de voir ça. Puis écoute, je checkais en même temps pendant qu'on jasait, il y a seulement 28 joueurs encore au camp du Canadien, ceux qui sont en santé. Donc, on a 10 défenseurs, dont Norlinder. Un petit peu, je retrouve l'information. Mayu Barron, Norlinder, un défenseur. Donc, 10 défenseurs, 15 attaquants, dont Emil Heinemann, puis 3 gardiens de but qui sont au camp de CH présentement parce qu'on a vraiment descendu Philippe Maillet, Lias Anderson au balotage pour aller le céder au Rocket de Laval. Donc, ça s'en vient. Ça s'en vient vraiment. Puis j'ai hâte de voir les prochaines pré-saisons. Évidemment, là, on parlait plus vendredi de la confrontation Pezzetta et Ryan Reeves avec Toronto. Parce que Pezzetta est allé dire en entrevue, moi, j'ai pas de problème, je vais prendre ma revanche. Et après ça, on a parlé à Jagai qui a dit, ben moi, si j'ai besoin d'y aller, je vais y aller. Évidemment, les gars vont dire ça, c'est sûr qu'il va arriver. Et je pense pas que Pezzetta va baisser les bras non plus. Mais lui aussi, je pense que son poste est en danger. Il va falloir qu'il soit là cette année, qu'il soit bon. On l'aime bien à Montréal, mais c'est quand même un 13e, 14e attaquant. D'après moi, à Montréal. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer aussi au niveau côté offensif.
Question intéressante dans le chat de Peter qui mentionne si on a vu que la fille Lena Lupinova, la fille, je pense qu'elle avait 15-16 ans, qui dominait contre des hommes, a l'intention de rejoindre la Ligue féminine. Je pense qu'elle s'est engagée dans la NCAA la saison prochaine. Pas sûr. Faudrait que je revérifie. Moi, j'ai comme l'impression qu'elle va faire ses études là-bas, qu'elle va finir ses 3-4 ans là-bas, puis que peut-être qu'éventuellement, maintenant que la Ligue féminine existe, puis on va voir si ça va durer là, jusqu'à dans le temps qu'elle va avoir terminé. On va espérer que oui. Mais effectivement, ça va être une joueuse qui va être à surveiller éventuellement là, dans les prochains repêchages de la PWHL, parce qu'effectivement, là, c'est une fille qui pourrait faire vraiment rayonner le hockey féminin, parce qu'elle a beaucoup de talent. Et on va souhaiter qu'elle prenne cette décision-là de se joindre à cette ligue-là. Puis, qui sait, peut-être qu'on peut la ramasser à Montréal.
Ouais.
Ça serait plaisant. Imagine un petit duo avec elle, puis Marie-Philippe Poulin, là. Hop-a-l'aille. Sinon, y avait-tu des sujets que tu avais spotés qu'on pourrait discuter là, pour terminer? Je sais que, malheureusement, du côté des Hawks, là, l'espoir québécois Samuel Lavoie qui a subi une blessure atroce.
Aïe, aïe.
Là, il va se faire opérer prochainement, puis son absence est vraiment là, d'une absence indéterminée. Je n'ai pas vu la blessure en question, mais ça avait à lire ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, ça semblait assez terrible, merci.
Belle crème dans la bande qui a fait que le fémur a lâché. Il a eu sa intervention chirurgicale aujourd'hui d'ailleurs pour le fémur, donc son fémur a été recollé. Mais du côté de... C'est quoi son nom déjà? J'ai un blanc.
Samuel Lavoie.
Samuel Lavoie, donc on parle d'une période indéterminée, on n'a pas de date de retour de son côté-là.
C'est Samuel Lavoie ou Samuel Savoie, je me souviens plus, je vais regarder pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Là. Mais ouais, c'était pas. Ça n'avait pas l'air d'être très chic-chic, mettons.
Savoie, Samuel Savoie.
Savoie, ouais, c'est ça.
Sinon, de l'autre côté, l'effet plat de cette semaine, donc évidemment, l'assistant général des Flames de Calgary qui était pris avec le ALS.
Oui, ouais, c'est vrai.
Donc, évidemment, c'est jamais une nouvelle qui est super la fun à dire, mais a perdu, en fait, il nous a quitté, c'est quoi, ça fait 3 jours déjà. Donc, la fameuse ALS, tu sais, les fameux Ice Bucket Challenge qu'on a fait là, les années, ça servait à ramasser des fonds pour ça et... Dommage, c'est un autre jeune homme, encore jeune, qui nous quitte. Puis bravo à Brad Treleving dans le temps qu'il était avec les Flames. Puis on a parlé un peu au niveau de BPM Sport avec l'ancien entraîneur. Là, j'ai un blanc, là, j'ai toujours un blanc quand je veux parler de lui. L'ancien entraîneur des Flames, on a gagné le gars d'Oxbury.
Ah, Bob Hartley.
Bob Hartley qui disait que bravo à Brad Treleving de l'avoir embarqué comme assistant general manager avec lui malgré la maladie. Et c'est un gars qui était dédié au hockey 100%. Sa famille le sait, sa femme le sait. Et encore drôle, il est décédé la journée avant l'anniversaire de sa femme, son 40e anniversaire. Donc, son 50e ou 40e anniversaire. Donc, de ma part, les condoléances, je pense, de la part de Hockey sur demande puis de tout le monde, de condoléances à la famille des Calgary.
Non, effectivement. Puis, chapeau à toutes les équipes là, qui ont pris la peine de publier un message là, sur les réseaux sociaux là, pour montrer leur support. Là. Aux Flames de Calgary suite à cette perte-là. J'avais le plaisir d'annoncer des nouvelles comme ça, donc
Chris j'espère qu'il n'y
a pas trop souvent cette année. Sinon, dans le chat, Savanti a une question pour moi qui mentionne « Quelle est mon équipe favorite? » On sait que Stéphane, c'est les Wings. Ben moi, évidemment, c'est le CH, mais quand même... Ils sont pas mieux, tes Wings. Ils sont un peu mieux, mais pas tant que ça. Mais je suis quand même capable d'apprécier le hockey en général. Je ne suis pas un fan là, qui voit juste le Canadien dans sa soupe et qui n'est pas capable de parler des autres équipes. Là. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je fais un podcast sur le hockey en général. Oui, on parle du Canadien, évidemment, parce que c'est l'équipe ici, mais quand on essaie de parler, pour être capable de parler d'autres équipes aussi, ça me fait grandement plaisir. Mais oui, effectivement, le CH, c'est mon équipe, mais une bonne game de hockey, que ce soit Columbus, Arizona, je m'en fous, je suis capable de regarder ça, autant que c'est du hockey. Là.
Et je vous dirais, si les fans du Canadien seraient comme toi, ça serait pas mal plus facile à Montréal. Et je dis pas ça pour cracher, parce qu'on le fait assez souvent, mais faut être avant tout un fan du sport et ensuite voir ce que les jeunes peuvent nous donner. C'est une équipe de jeunes à cette heure, je pense que c'est une ligue de jeunes. Et c'est le fun de voir. Moi, tu sais, j'aime pas le Canadien personnellement. J'aime parler du Canadien, on le fait tous les podcasts. J'aime voir ce que le Canadien s'en va. Je souhaite que du bien du Canadien. Mais je dérogerai pas. Puis tu sais, il y en a qui sont pires que moi. Mon père, c'est un fan des Blackhawks depuis toujours, donc...
Ah, il doit être content d'avoir Connor Bedard, par exemple. Ok, va avoir du fun.
Sorry, Pops. Ça finit le dernier cette année.
Puis il va ramasser un autre espoir de qualité, puis on va revoir le fameux Taves Kane version 2026 avec Connor Bedard et un autre.
Exact. Puis mon père qui commence aussi sur le post disant qu'il serait mieux d'expliquer en anglais Martin Saint-Louis, ça serait plus facile à comprendre.
Ouais. Tu sais, on veut absolument un coach québécois à Montréal, mais des fois, ça veut pas dire que parce qu'il est québécois qu'il parle mieux le français. Puis tu sais, évidemment, c'est pas un knock contre Martin Saint-Louis, mais tu sais, quand tu vis pratiquement toute ta vie en anglais, à un moment donné, c'est sûr que
Le
français, tu le perds un petit peu plus. Mais bon,
j'ai de Laval en plus.
Je pense que Chantal est là pour l'aider un peu.
Mais oui, c'est un gars de Laval en plus, donc c'est parti de la gang.
Ben écoute, Steph, je pense que c'est pas mal tout pour le podcast de ce soir. Écoute, il nous reste une division à faire, la division Pacifique. Ouais. Est-ce que c'est là qu'on va avoir des mots de tête? Parce qu'à date, présentement, je n'ai pas eu tant de mots de tête que ça pour faire nos prédictions. Mais ça encore là, c'est relatif parce qu'on dit tout le temps que c'est facile, on les classe, ça va bien. Puis finalement, à la fin de l'année, on est comme « Oups, allez, on a passé à côté ». Mais logiquement, lorsqu'on regarde ça, ça se tient, mais c'est souvent là, à la fin de la saison, qu'on se dit « Oups, je pense que ma prédiction n'était pas tant bonne ». Mais bref.
C'est ce qui est le fun des prédictions, en fait. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas des experts. On s'en vient des experts, mais on ne l'est pas encore.
Avant tout, on est des sportifs de salon qui apprécient beaucoup le hockey. Moi, je ne me proclamerai jamais, mais jamais expert. Moi, j'aime juste en parler et c'est tout. Mais écoute, puis tu sais, en même temps, à part des anciens joueurs et des anciens coachs, c'est pas vraiment tu peux pas vraiment être un expert de ça. C'est tellement... C'est un coup de dé à chaque fois quand tu fais des prédictions. Là, je veux dire, t'as pas une certitude. Moi, c'est... Puis encore là, je peux-tu me permettre un petit coup de poing à des gens... Puis tu sais, c'est rien de méchant, évidemment. Là. Mais tu sais, il y en a peut-être dans le chat qui ont l'application DraftKings pour faire des fantasy drafts. Puis tu sais, il y a des pools là, qui sont gratuits que vous pouvez faire d'ailleurs sur DraftKings. Vous n'avez même pas besoin de déposer de l'argent. Là, vous pouvez faire ça gratuitement. Puis vous pouvez gagner de l'argent aussi en faisant ces pools-là. Mais moi, je ne connais rien au football. Tu sais, je suis un peu ça à gauche puis à droite, mais je fais mes recherches par contre. Et là, j'ai regardé, il y a plein d'experts là, qui font des line-up, là, qui font des simulations de line-up, qui ont plein d'outils, puis nous disent « OK, tel gars d'avoir une grosse semaine, tel gars d'avoir une grosse semaine. » Et en fin de semaine, ça a été très, 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 très laborieux. Fait que ces modèles-là, ça vaut ce que ça vaut. Écoute, là, t'as beau faire des simulations pour faire des projections, puis tout ça, ça se passe sur le terrain, puis malheureusement, il y a des joueurs qui ne performent pas autant que les modèles auraient dû. Fait qu'à cause de ça, ça n'a pas été une fin de semaine fructueuse pour moi. Mais bon, ça, c'est une parenthèse que je voulais me vider le cœur là-dessus. Mais tout ça pour dire que tu as beau regarder 15 millions de matchs de hockey. Moi, personnellement, jamais je ne vais proclamer un expert parce qu'il y a trop de trucs qui sont impondérables et que c'est trop dur d'avoir la vérité absolue.
Mais je pense que c'est l'avantage de faire cette chose-là qu'on fait à chaque année et qu'on aime les auditeurs. On dit ce qu'on pense puis on voit comment ça fonctionne. Puis on n'est pas souvent loin de la réalité, mais ça fait de nous que chacun d'entre nous à la maison, on peut voir notre façon du hockey différent puis on s'amuse avec ça. Je pense que c'est le plus important.
Fait que Steph, ton dernier devoir de la saison, faire ton classement de la division Pacifique. Et par la suite, là, évidemment, lorsque la saison va commencer, eh bien, tous nos beaux segments vont revenir. Donc, coup de cœur, coup de pied, sur réception. Qu'est-ce que c'est ça? What the fuck? Bon. Ça va tout revenir. Toute la gang.
Puis s'il vous plaît, puis je vais le dire dans le prochain podcast aussi, là, envoyez-moi-en sur Twitter. Stéphane Grenier 2R. Steph Grenier Deheur, pardon.
Ça n'affiche pas les informations d'habitude de notre nom.
C'est juste de ta faute, mais on ne dira pas. Fait que.
On va prendre la blonde, écoute.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Steph Grenier avec deux R à la fin. Donc, envoyez-moi-en des what the fuck ou des que c'est ça. J'aime toujours ça voir ça. Puis écoute, je passe ma vie sur TikTok puis sur Twitter, ma blonde pourrait vous le dire, dans le mauvais sens des choses. Mais c'est pas grave. Donc, j'aime toujours ça, trouver des affaires stupides ou des affaires niaiseuses et ça ne changera pas cette année. Donc, on va essayer de continuer ça éventuellement. Puis on va essayer de faire peut-être des top 5 des choses les plus stupides du mois aussi. Donc ça pourrait être pas pire ça avec. Là. Je m'avance peut-être trop loin, mais j'aimerais ça apporter un petit côté humoristique à nos podcasts. Moi qui, avec mes fables et mes choses qui disent souvent qui n'ont aucun rapport, fait très bien rire les gens.
Yes, donc on se retrouve la semaine prochaine. Dernier podcast de prédiction et ensuite on va retrouver la formule normal et ce sera en même temps, ça va vouloir dire que la saison 2023-2024 est enfin commencée dans la LNH. Je dis bien dans la LNH parce qu'évidemment, junior et tout ça, c'est commencé. Mais on va surveiller ça aussi également du coin de l'œil là, quand il y a des petites nouvelles niveau junior ou au hockey féminin aussi quand ça va débuter. Donc, on va garder un œil là-dessus aussi. Et j'allais oublier aussi, c'est vrai. Pour les partisans de la Ligue nord-américaine, sachez que le podcast La Source LNH va revenir mardi prochain. Et je vais d'ailleurs faire un petit tour sur le pod là, parce qu'on va y aller avec nos prédictions là, pour la saison. Pourquoi tu me pointes de main?
Tu vas être là!
Je vais avoir l'honneur de participer à ce podcast-là, le fameux podcast de début de saison où on fait nos prédictions pour la saison 2023-2024. Et évidemment, moi, je vais être de retour aussi là, à l'analyse là, des matchs Cool FM là, que ça commence vendredi prochain. Donc, ça va arriver assez vite. Donc, si vous voulez regarder aussi une entrevue également mardi prochain avec le défenseur Yann Sauvé des Pétroliers de Laval. C'est un ancien défenseur qui a été repêché par les Canucks de Vancouver, donc a eu l'honneur d'être repêché par une équipe de la NHL. Un très bon défenseur dans le circuit aussi. Donc, si vous voulez entendre des anecdotes probablement là, dans le passé, il a joué également en Europe. Donc, si vous ne voulez pas manquer ça, bien c'est mardi à compter de 7h.
Moi, j'ai une demande spéciale. Je pense que tous les auditeurs puis Twitter débordent présentement dans mes messages, là, mes DM. Là. On veut que tu portes ta bague puis tu mettes des dents en or avec un jacket puis des lunettes. Donc, la célébration.
Ouais, là, c'est toujours proche. C'est la bague qu'on a eue pour le championnat qu'on a eu.
Le meilleur analyste, la meilleure équipe. Et voilà, c'est décidé, c'est dit.
Puis encore une fois, ben, je vais remercier l'organisation du Cool FM parce que pour vrai, ça aurait pu juste être les joueurs qui avaient droit à une bague, mais non, nous aussi dans le staff, on avait le droit. Donc, ils n'étaient pas obligés puis ils l'ont fait. Donc, une organisation de première classe du côté de la Ligue nord-américaine et très agréable également de décrire les rencontres avec cette formation-là. Mais elle ne me fait pas, malheureusement, elle est trop lousse un peu dans mon doigt. Je ne peux pas me balader dans la rue avec ça.
C'est force du doigt un peu, mon chum. On va rentrer.
Ben, elle rentre dans l'autre à côté, mais j'ai tout le temps peur qu'elle ne ressorte plus. Fait que, rendu là, je vais la laisser comme en mode décoration dans mon bureau en guise de souvenir.
Bien sûr.
Ben, écoute, Steph, je ne te retiens pas plus longtemps. Si tu veux regarder la fin du match entre les Jets et les Chiefs du côté du football, la NFL. Donc, je te libère et on se dit.
Mais oui, ils ont gagné. La soirée va bien. Mes Cowboys ont battu les Pats. Thanks à mon chum Jeff Bray. Bye-bye. Et là, les Wings ont planté en plus les Blackhawks avec deux buts de Rasmussen.
T'avais-tu pris une gageure avec ton père, by the way, pour ce match-là? Faites-vous des gageurs des fois ou des trucs comme ça entre
père et fils? Non, je suis pas un gars de gage. Je devrais faire ça. Ben, je te l'ai dit l'autre fois. Il faudrait que je fasse ça, des petites mises. Là. Je serais pas pire. En plus, je suis bon dans ces affaires-là, habituellement.
Non, mais tu sais, sans dire que tu mets 20$, mais tu sais, juste, les Wings battent les Hawks, ben, il faut que tu... Faut que tu boives genre une bière tablette vraiment dégueulasse ou des niaiseries de main, je sais pas. Des petits trucs funnés entre. Des petites gageures, là.
Ouais.
Tu sais, du genre, si les Wings finissent en avant des Hawks, mais faut que je me balade avec un gilet des Red Wings là, pendant une tournée complète à job. Dire que c'est la meilleure équipe au monde. Non? OK.
Ça serait drôle, ça, bien.
Ouais. Mais ça, je te verrai au Golf Town avec un chandail des Hawks.
On peut faire ça avec les Wings cette année et les Canadiens. Là. C'est deux équipes qui vont se battre pour les bas-fonds.
OK, fait qu'on met quoi, mettons? Si, admettons... Il faudrait pas juste parce qu'on sait que les Wings vont finir en avant du Canadien cette année.
Non. Il n'y a personne qui a prédit ça encore, là. Ah oui, on a déjà fait l'Atlantique, t'as vraiment.
Ouais, on l'a déjà fait, puis on est pas mal unanime que les deux, on mettait les Wings en avant du Canadien.
Moi, je dis qu'on bête, mais que c'est Savanti qui change son chandail et les Devils pour le Canadien ou pour... on peut faire ça aux auditeurs à la place.
Ça peut faire. Si, c'est pas de quoi de hyper majeur, là, mais si les Wings finissent en avant du Canadien, je vais m'acheter un T-shirt des Wings puis je vais le mettre pour le podcast pour le début des séries.
Et...
Si le Canadien finit en avant des Wings, il faut que tu t'achètes un T-shirt du Canadien et que tu le mettes fièrement dans le podcast premier podcast des séries.
Sacre. OK, pas trop.
Ah, mais dis-toi que tu as genre 70% que ce soit moi qui ai à faire cette dépense-là et non toi. Fait que tu peux dormir sur tes deux oreilles.
On va le financer, on va te l'envoyer par la malle.
Là, je parle d'un T-shirt parce que je ne dépenserai pas 200$ pour un chandail des
Canadiens. Non plus. C'est correct.
Ça ne serait même pas pour un chandail du Canadien, imagine.
En tout cas, moi, mes gars vont être contents, ils vont en bénéficier après.
Ouais, vu de même. C'est un bon mois. Bon, fait que trêve de niaiserie maintenant. On se dit à la semaine prochaine, Steph, pour le dernier podcast de prédictions. Et préparez aussi, faites vos devoirs de votre côté également, les gens à la maison. On veut vos prédictions aussi pour la semaine prochaine. Donc, vous avez une semaine pour y penser. Donc, on se dit à la semaine prochaine et bon OD pour ceux-là qui regardent en reprise.
Ciao, bye!